Bien, donc on, nous reprenons après cette pause. Voilà, donc nous allons maintenant poursuivre cette matinée autour de l'art d'aujourd'hui avec Jean-Pierre Denis et puis ensuite avec une discussion entre Jean-Pierre, Jérôme et vous. Quand Jean-Pierre est très occupé, en plus on a eu un bouclage avancé cette semaine, il part bientôt en vacances avec plein de choses à terminer. Il part pas en vacances, mais j'espère que ça va finir par arriver. Mais surtout, voilà, il est tout seul comme rédacteur en chef, directeur de la rédaction à la rédaction. Nos rédacteurs en chef, il y en a un qui est en vacances. Ils sont en vacances, voilà. Et donc Jean-Pierre tient la maison pendant ce temps-là. Et il s'était sapé pour venir nous voir. Et quand il m'a demandé à quel moment il pouvait venir le plus pertinent, moi j'ai trouvé que c'était ce matin, parce que je sais que depuis son livre Pourquoi le christianisme fait scandale, hein, qui s'intéresse beaucoup à l'art contemporain, au rapport du christianisme et à la culture contemporaine. Donc je me suis dit, c'est vraiment ce matin que Jean-Pierre sera le plus intéressé, puis le plus profitable aussi, une conversation avec lui la plus profitable avec nous. Donc Jean-Pierre, je te donne la parole. Tu voudrais donc justement nous parler de la façon dont les chrétiens pourraient davantage s'intéresser à ce qui se passe en matière artistique et culturelle aujourd'hui.
Merci Dominique. En même temps, j'ai pas besoin de vous y inviter, parce qu'après la conférence de Jérôme Cotin tout à l'heure, qui était assez extraordinaire en toutes les portes qu'elle ouvrait, je dirais que c'est plutôt avec lui qu'on a envie d'avoir un temps d'échange, et on a vu à quel point l'art contemporain était pour nous les chrétiens un enjeu fondamental. C'est vrai que ça fait longtemps que je m'y intéresse. Ça fait longtemps que je pense que le christianisme devrait s'intéresser, les chrétiens devraient s'intéresser aux questions culturelles avec beaucoup plus de, à la fois de bienveillance, comme l'a fait Jérôme Cotin, peut-être un peu d'esprit critique de temps en temps, mais d'abord de la bienveillance. Et donc je suis venu. Alors il faut quand même que je vous dise que le journalisme, pour moi, c'est une sorte, je devrais pas dire ça, mais c'est une couverture en fait. Ma vraie vocation, c'est la poésie. Mais je fais quand même un peu de journalisme. Et d'autant plus que quand j'ai publié mon dernier recueil, une de mes filles m'a dit, papa, peut-être que quand tu seras mort, on lira ce que tu as écrit dans les écoles. Voilà. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu valider une fois en rentrant dans une librairie, parce que si vous intéressez à la poésie, je parle là sous le contrôle de Colette et d'Ismazur, mais quand si vous intéressez à la poésie, que vous rentrez dans une librairie, vous voyez toujours que le rayon poésie est très très différent des autres rayons, du rayon philo, du rayon littérature, polar, idée. C'est le seul rayon où tous les auteurs sont morts. Voilà. Sauf Colette Nismazur. Voilà. Alors, Jérôme Cotin vous a fait un tableau que nous avons trouvé extrêmement enthousiasmant. Moi, j'aurais envie de mettre une petite pointe de critique d'abord dans notre rapport avec l'art contemporain, mais en même temps cette critique, c'est une façon aussi de dire qu'on est en train de changer d'époque. On est en train peut-être de sortir d'une époque dans laquelle on était dans un art qui était un art uniquement de la déconstruction, pour rentrer dans une époque où petit à petit on retrouve un certain nombre de matériaux. Et ces matériaux, ils sont souvent puisés dans le christianisme, comme il vous l'a brillamment montré, et c'est assez troublant quand ces matériaux sont employés par des personnes qui ne connaissent pas le christianisme. Mais on est en train de sortir d'une époque, et on n'en est pas quand même complètement sorti, dans laquelle l'art était quand même, je dirais, asservi au commerce et asservi à l'idéologie. Moi, je me situerais donc un petit peu entre la boutade qu'Emmanuel Rosseder évoquait hier quand il parlait d'art contemporain. Enfin, ça nous a tous. C'est un jeu de mots facile, on va dire, mais en fait c'est quelque chose qui est qui est d'ailleurs complètement faux, parce que justement il compte beaucoup, hein, vous voyez, c'est ça qui fait que ça compte en fait. Et l'enthousiasme de Jérôme Cotin. Jérôme a évoqué tout à l'heure Ernest Mignon Ernest, qui est effectivement un artiste qui est tout à fait remarquable et que j'apprécie beaucoup. Et à l'occasion de sa rétrospective, il a donné une petite interview à nos confrères du magazine du Monde. Et il a quand même glissé une phrase qui m'a frappé. Il dit « Le monde de l'art contemporain ne sait pas voir le dessin, il le traite de vieillerie ». Donc quand même, un certain nombre d'artistes qui sont à la fois très très reconnus ont eu le sentiment quand même de devoir lutter pendant une bonne partie de leur vie d'artiste contre un certain nombre de dictats, et de dictats qui sont souvent les dictats quand même du marché. Quand vous prenez, qui sont soit des dictats du marché, je dirais soit des dictats purement, idéologiques. Quand vous prenez, si vous connaissez, intéressé un petit peu à la musique, pour revenir sur ce qu'il évoquait hier, quand vous évoquez, quand on s'intéresse un petit peu à la musique, quand on discute avec des compositeurs contemporains, comme j'ai eu l'occasion de le faire, ils disent quand même qu'ils ont l'impression de sortir d'un cadre qui était un véritable carcan qui a empêché en fait la création. On a encensé Pierre Boulez quand il est mort, c'est tout à fait normal d'encenser les morts, mais enfin je vous mets au défi d'écouter du Boulez. Je vous mets au défi d'écouter du Boulez, du Stockhausen, enfin si peut-être qu'il y en a quelques-uns qui aiment bien, qui sont capables de ça, mais fondamentalement ce qui était interdit, ce qui était obligatoire, je dirais, c'était, bon, il y avait la musique dodécaphonique, la musique sérielle, la musique concrète. Ce qui était interdit, c'était quand même la mélodie, surtout l'harmonie, la tonalité, le fait qu'on puisse se remémorer une mélodie, tout ça c'était considéré comme des choses absolument dépassé. Il y a quelques années, il y avait même dans l'IB, j'ai trouvé cette tribune qui posait une question significative: y a-t-il une musique après la musique contemporaine? Et alors l'auteur disait: c'est à peine croyable, d'ici à quelques années, la musique préférée des mélomanes pourrait être celle des compositeurs de leur temps. Fini les éternels bruitages sonores que les spécialistes se flattent d'être les seuls à comprendre. Enterrer les effets instrumentaux qui prétendent encore déranger quand ils ne font qu'endormir. Oublier les Beethoven non plus n'étaient pas aimés, que les compositeurs lancent à la cantonade pour faire porter au public la responsabilité de leur propre indigence. Patience, cela se pourrait, la musique du futur est bientôt derrière nous. Bon, alors vous allez dire que c'est une attitude qui peut sembler purement réactionnaire, mais en fait non, c'est une forme de libération quand même pour beaucoup de compositeurs de musique contemporaine de pouvoir se réapproprier enfin les fondamentaux de la musique. En fait, on passe d'une une période de déconstruction à une période quand même de reconstruction. C'est en réalité ça qui est enthousiasmant. Il n'empêche que l'art quand même reste d'abord un produit spéculatif. Il faut quand même le rappeler. Hein. On parle d'ailleurs de marché de l'art. C'est une expression qui est elle-même très très significative. Et je crois qu'on est quand même passé de l'art de l'époque des mécènes à l'époque des investisseurs. François Pinault, ce n'est pas un mécène, c'est un investisseur. Et y compris quand il crée un musée à Venise, que vous avez peut-être l'occasion de visiter, la pointe de la douane à Venise, en fait, derrière, il y a des investissements. C'est-à-dire qu'il choisit d'acheter un certain nombre d'artistes qui sont sur un marché international. Et actuellement, la spéculation, par exemple, fait que la cote des artistes chinois sur ce produit, comme la Chine a compris que l'art aussi pouvait être un produit de consommation et d'exportation avec des cotes absolument faramineuses. Et les plus gros acheteurs sur le marché de l'art actuellement, c'est quand même le Qatar. Donc on reste dans cette ambiance-là. Il ne faut pas non plus complètement l'oublier. La deuxième critique que je ferai, c'est sur l'art comme transgression. En fait, ben, tout a été transgressé, donc que transgresser de plus? Et moi, j'ai tendance à penser que ce qu'on appelle provocation, c'est parfois la forme la plus aboutie du conformisme. Et je dirais que quand la transgression c'est devenu quelque chose qui est complètement obligatoire, on ne peut plus y échapper, donc je suis pas sûr que ce soit encore une transgression, et en fait au contraire ça devient quelque chose de complètement académique. Et alors, évidemment, on est beaucoup d'artistes jouent avec ça et sont capables à la fois de dépasser ça et sont encore prisonniers de ça. Vous nous avez montré Anish Kapoor, et c'est vrai que ce que vous avez montré, c'est une œuvre magnifique. C'est une œuvre qui nous renvoie à Saint-Paul, et qui est une œuvre magnifique, mais c'est même Anish Kapoor, c'est lui qui a fait, vous savez, cette installation dans le jardin de Versailles, c'était l'été dernier, qui s'appelait le vagin de la reine, et qui est une sorte d'entonnoir entouré de grosses pierres. On a le droit aussi d'avoir une petite distance critique par rapport à ça, parce que c'est quand même juste. Pour moi, ce n'est pas une provocation. C'est au mieux, c'est une plaisanterie, mais ce n'est pas une provocation. Évidemment, alors tout de suite, un certain nombre de gens vont crier à la provocation. Ça fait partie du spectacle qui est prévu. Donc, ces gens-là sont, y compris avec. Alors, Castellucci, c'est évidemment magnifique. Et ceux qui crient à la provocation et au blasphème sont des gens qui n'ont évidemment aucune culture artistique et souvent d'ailleurs pas beaucoup de culture religieuse. Donc je trouve que c'est très difficile parce que face à ça, essayer de se situer avec une petite distance critique. Bon, alors ça c'était pour lancer la discussion qu'on peut avoir, mais quand même fondamentalement ce que j'ai envie de dire et de partager avec vous, c'est qu'on est dans une époque qui est justement à la fois très, très modeste, très humble, et du coup très enthousiasmante pour la création artistique, parce que justement, on est en train de ramasser un certain nombre de morceaux qu'on a trouvés par terre, et avec ces morceaux qu'on a trouvés par terre, de reconstruire quelque chose. Donc il me semble qu'on est quand même vraiment passé dans cette époque-là. Dans la poésie, si je disais dans la musique contemporaine, l'harmonie était interdite, la tonalité était interdite, dans la poésie c'est un peu la même chose. Et après vous avoir dit, déploré en fait qu'on ne lise pas de poésie contemporaine, il faut bien avouer que c'était dans les années 70-80, c'était juste illisible parce que le verre on avait brisé le verre, si je peux me permettre cette expression. Donc il n'y avait plus rien, on pouvait plus mémoriser. Et quand ma fille m'a dit on te lira quand tu seras mort dans les écoles, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que c'est qu'un poème qu'on a envie de un poème, c'est d'abord quelque chose qu'un enfant peut apprendre par cœur et recopier dans un cahier, vous savez, avec un petit dessin à côté. C'est ça aussi le rapport qu'on peut avoir avec l'art, et ça ne doit pas être interdit. Et quand vous lisez des poèmes de Maurice Carême qu'on apprend dans les écoles, c'est un poète magnifique, c'est un grand poète. Quand vous lisez des poèmes de Prévert, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et voilà, donc à notre époque, on est en train de retrouver, et c'est très très modeste, parce qu'évidemment, par exemple, la rime, c'est quelque chose d'un peu difficile. Donc je trouve que c'est pratiquement, enfin c'est très difficile d'utiliser la rime, mais quand même on peut déjà recommencer à utiliser le vers. Dans mon dernier recueil, Me voici forêt, j'ai essayé de retravailler le quatrain, quelque chose de voilà qui est une forme assez finalement tout à fait classique, et de retrouver aussi la forme litanique, qui est aussi une forme qui nous chrétiens peut nous parler, avec la répétition. En peinture contemporaine, quand vous avez peut-être eu l'occasion, on en a souvent parlé dans la vie, de voir les œuvres de Fabienne Verdier, qui est allée en Chine trouver les derniers maîtres qui avaient survécu à la révolution culturelle, pour retrouver le geste, en fait, retrouver les gestes fondamentaux, le geste du pinceau qui était proscrit. Récemment, je discutais avec un architecte qui a énormément construit en France, dont je vous dirai d'ailleurs un petit mot tout à l'heure, Jean-Marie Dutilleul, que vous connaissez peut-être parce qu'il a construit en fait beaucoup de gares. Ceux qui sont de Strasbourg, j'espère, apprécient la gare de Strasbourg qui a été très controversée quand il a construit la nouvelle gare de Strasbourg. Il a construit beaucoup de lieux de culte aussi. Et Jean-Marie Dutilleul me disait récemment que les jeunes architectes ne savaient pas dessiner de fenêtres. C'est un peu embêtant parce que ainsi la fenêtre, ça fait un peu partie de l'architecture. Parce qu'en fait, ils sont habitués à utiliser des logiciels dans lesquels on va rentrer un certain nombre de paramètres. Et lui, il disait, ben, en architecture, la première chose, si je vous parlais du dessin, c'est le dessin. C'est-à-dire, je commence par dessiner justement une fenêtre, et c'est après que je vais voir quelles sont les cotes, quelles sont les considérations techniques. D'abord, le dessin. Il dit que les jeunes architectes n'étaient pas formés, en fait, n'étaient plus formés à cette tradition du métier, en fait, qui est un métier d'artisan et pas un métier soumis aux contraintes justement du marché. Voilà. Donc on retrouve le geste, on retrouve la forme, on retrouve le métier, on retrouve le lien aussi. C'est aussi ce qui m'a frappé en écoutant Jérôme Cotin tout à l'heure et qui est très caractéristique de notre époque, c'est-à-dire on retrouve un certain nombre de formes dont on avait peut-être même plus conscience et qui en fait continuait à nous agiter. Donc voilà, il y a une époque où on était saturé de ces formes qui sont des formes pour la plupart chrétiennes, et il y a une époque où on a eu besoin de se couper de ces formes parce qu'il y en avait peut-être vraiment trop, d'où la déconstruction qui était sans doute absolument vitale et nécessaire. Et là on est dans la période de des retrouvailles, en fait, de la reconstruction, et qui est une période très incertaine et qu'il faut regarder, je crois, avec beaucoup de bienveillance. Et je voudrais dire juste un petit mot sur les chrétiens dans ce cadre-là. Bon, faut quand même se rappeler que le christianisme a donné à la culture européenne sa forme, mais je dirais aussi que la culture dans laquelle le christianisme est plongé lui donne sa forme. Ça marche en fait dans les deux sens, faut jamais l'oublier. Donc il y a un art chrétien, c'est assez frappant, l'art chrétien est très tôt, dès l'époque des catacombes. Et je dis ça marche dans les deux sens, puisque vous savez que ce sont les formes et les techniques du moment qui déterminent aussi la forme de la religion, et on sait que l'invention du codex par rapport au rouleau a joué un rôle extrêmement important dans l'évangélisation, le développement et la transmission notamment du message de Saint Paul finalement. Donc ça joue dans les deux sens. Donc il faut que les chrétiens retrouvent ce lien avec la culture et se laissent aussi informer par les formes contemporaines de la culture. Alors on a une civilisation qui s'est construite sur l'art religieux, évidemment. Bon, ça j'ai pas besoin de rappeler que l'art roman, l'art gothique et le baroque sont essentiellement des arts religieux, mais je dirais que plus largement, c'est qu'il n'y a pas de pensée chrétienne sans une pensée, sans une esthétique, sans une pensée de l'art. Finalement, quand vous lisez quand vous voyez l'œuvre que laisse un Bernard de Clairvaux, c'est une forme religieuse, c'est les cisterciens, mais c'est une forme architecturale, c'est une pensée, c'est une esthétique. Et ça, c'est je crois, quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Alors malheureusement, justement, on l'a un peu perdu de vue, c'est ça que là aussi je vous donne un petit peu de critique. Il semble que l'Église a délaissé le champ culturel. Alors, il y a eu au XXe siècle des tentatives et des réalisations magnifique autour du courant de l'art sacré. Et justement, à l'époque, on a pensé à faire travailler des artistes qui n'étaient pas chrétiens. Souvent, des artistes qui ne sont pas chrétiens arrivent à toucher au mystère du christianisme mieux que ne le font les chrétiens. C'est vrai en peinture, c'est vrai en littérature. Si vous avez lu le livre d'Emmanuel Carrère, il y a un an ou deux, sa lecture en fait du christianisme était plus chrétienne que beaucoup de traités de théologie. Donc c'est ce mouvement-là, il continue à exister aujourd'hui, et donc il faut que l'Église continue à s'y intéresser. C'est pour ça qu'il se trouve que le thème de cette université d'été il est absolument essentiel. Or, en fait, c'est vrai quand même que ces dernières années, en gros, on nous a dit il faut choisir entre le social et le culturel. Mais moi, j'ai envie de dire il y a autre chose à prendre en considération, et cette autre chose, c'est le rapport avec la culture. Voilà. Alors évidemment, on va dire l'art ne sert à rien, mais on peut dire aussi que l'amour ne sert à rien, on peut dire que la beauté ne sert à rien, mais je pense que vous voyez à quel point ce qui ne sert à rien nous est indispensable. Voilà. Et d'ailleurs, la réponse qui est apportée à ça, malheureusement, est souvent aujourd'hui très pauvre dans le christianisme, parce qu'on a tendance à penser que, justement à cause de cette méfiance vis-à-vis de la création contemporaine, on a tendance à penser qu'il faut retrouver des formes qui sont un petit peu, je dirais, du toc, en fait. C'est-à-dire, on va construire des monastères, par exemple, qui vont être en pseudo-roman, style pseudo-roman. Je pense que c'est pas ça l'enjeu. Il y a quelques années, j'étais allé voir la construction d'un monastère cistercien en République tchèque, qui était confié à un très grand architecte britannique. Et cet architecte n'est pas chrétien et il a inventé une forme qui est une forme qui est profondément il a retrouvé une forme qui est profondément cistercienne. L'évêque de Gap, Monseigneur Di Falco, a installé une Pietà, c'était en 2009 dans sa cathédrale. Cette Pietà, c'est un Christ sur une chaise électrique. Et tous les, c'est un artiste qui s'appelle Paul Fryer, et un artiste américain, je crois. Et à ce moment-là, tous les intégristes se sont déchaînés en disant c'est un blasphème, c'est une, voilà, on a désacralisé la cathédrale. Et cette Pietà est, je pense, profondément à sa place dans une cathédrale. Donc là aussi c'est difficile évidemment de garder son esprit critique, parce que souvent, alors là moi par exemple quand je vois le travail que vous avez présenté de ce travail photographique justement autour de la Pietà, en fait moi je trouve qu'on n'est pas loin du kitsch. Donc qu'est-ce que c'est que la frontière entre le kitsch, vous voyez, l'esthétique du nain de jardin, en fait, hein, et est-ce qu'on est dans le kitsch ou est-ce qu'on est dans l'art? Alors là c'est un sujet un peu difficile sur lequel on peut discuter et se débattre. Et inversement, moi quand je suis devant, je sais pas si vous avez eu l'occasion de vous retrouver devant vous avez parlé de Soulages. Quand on est devant Soulages, quand on est devant Rothko, quand on est devant Barnett Newman, quand on est devant un ciel de Turner, il y a une exposition, une rétrospective Turner en ce moment, je crois, à Aix-en-Provence. Quand on est face à ça, quand on est devant la peinture pure, on est devant aussi une fenêtre sur l'invisible. Et donc, on n'est évidemment pas du tout dans des formes qui sont des formes chrétiennes, mais on est confronté à cette question qui est une question profondément chrétienne, qui est la question de regarder, la question de voir. Et la question de voir, ou plutôt, je dirais, la question de traverser le voir. Vous savez que Soulages, il a forgé cette expression qui est l'outre noir, et qui est une en travaillant sur le noir et donc la lumière, en fait. Et qu'est-ce que c'est que l'outre voir, je dirais, pour nous les chrétiens? Et je me souviens d'avoir fait une expérience au Japon où j'ai vécu devant une statue bouddhiste du 8e siècle, et de me dire cette statue qui a traversé disons un millénaire, le 7e siècle, un millénaire et demi pratiquement, elle a vu passer un certain nombre de personnes, de siècles, de cultures, et en fait, en réalité, on n'a cessé de la regarder, ou plutôt, elle n'a cessé de nous regarder. Et je me dis que le rapport que nous avons avec l'œuvre d'art, la difficulté que nous avons de rentrer devant une œuvre d'art, c'est qu'en fait, on a perdu l'habitude de s'asseoir pour regarder, et d'arriver jusqu'au moment où le rapport s'inverse et c'est l'œuvre qui nous regarde. Et ça, quand on a ce rapport avec un Christ roman, par exemple, quand on est devant une Pietà, devant un Christ roman, on se rend compte à quel point, à un certain moment, en fait, il faut se laisser regarder. Et c'est peut-être ça qui est le plus troublant, et c'est là que l'expérience spirituelle commence. Et devant finalement, si on change de rapport avec l'œuvre d'art et qu'on accepte que ce soit elle qui nous regarde, on rentre dans une forme de communion. Voilà, je ne veux pas faire un panorama du paysage chrétien par rapport à ces questions-là, mais je veux quand même dire qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui chrétien qui essaie de renouer tous ces liens-là, le lien avec l'invisible, le lien avec la lumière, le lien avec la mélodie, bon, en poésie, en dehors de Colette et Nice Mazur, vous savez que ici, Pierre Tanguy, qui est breton, qui est pas loin d'ici, puisqu'il est à Rennes, vous avez un peu plus loin en Bretagne, Gilles Baudry, Jean-Pierre Lemaire, donc il y a quand même beaucoup de grands poètes d'aujourd'hui qui sont des poètes chrétiens. Dans la musique contemporaine, le plus grand compositeur peut-être vivant, c'est Arvo Pärt, qui est estonien, qui a à peu près 80 ans. C'est quelqu'un qui a traversé l'expérience soviétique, puisqu'il a même pas pu créer un certain nombre d'œuvres. Dans les années 80, il avait créé un requiem, il n'a pas pu le jouer. Donc Thierry Esquèche, aujourd'hui, qui est un des musiciens les plus demandés dans le monde, grand musicien français. Donc il y a un certain nombre d'artistes contemporains chrétiens de très haut niveau qui sont d'abord des artistes de leur époque, mais qui font aussi ce lien, qui font cette passerelle. Il y a beaucoup de lieux de dialogue aussi. Le passage Sainte-Croix, ici, c'est un exemple. À Paris, il y a les Bernardins. Vous avez évoqué les Dominicains. Ils sont chaque année au Festival d'Avignon. Ils sont là pour nouer ce dialogue. Vous avez une multiplication aussi des créations dans l'autre sens, dans les cathédrales avec la commande publique de vitraux. Donc tout ça est en train de se nouer. C'est fragile. Il faut rester critique, mais il faut rester, je crois, fondamentalement bienveillant par rapport à ça. Deux, trois petites convictions pour finir. Moi, je crois que donc l'art doit rester, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est l'art comme icône, c'est-à-dire fenêtre ouverte sur l'invisible. Vers quoi cette fenêtre est-elle ouverte si on reste dans cette agitation, spéculation du marché, moi, ça m'intéresse pas vraiment tellement, mais si cette fenêtre nous ouvre à quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, là j'y crois. Je crois aussi à l'art comme traversée du temps, donc je trouve très intéressant qu'on se resitue dans cette forme historique, hein. Anna Arendt disait que la culture c'est ce qui dure, et donc évidemment dans une époque d'éphémère, de jetable, ça c'est un petit peu où il faut soi-disant constamment innover, que c'est un peu difficile à faire entendre, mais justement quand ces artistes nous permettent de retrouver ces formes, ils se situent dans la durée, c'est très très encourageant. Et puis je crois aussi à une catégorie qui a été absolument qui est très difficile à revendiquer, mais tant pis, je fais devant vous, qui est la beauté. C'est-à-dire, je pense que la beauté comme catégorie artistique, c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel, nécessaire, indispensable, et qui est peut-être d'ailleurs le lieu d'une nouvelle évangélisation pour notre époque. Voilà quelques convictions que je voulais partager avec vous ce matin. Merci.
Bonjour, Jean-Pierre, peut-être Jérôme. Oui, est-ce que vous voulez réagir, Jean-Pierre, Jérôme, sur ce que vient de dire Jean-Pierre?
Je pourrais, mais je ne sais pas.
Alors,
je
pas trop. Oui, peut-être maintenant, puis après, on prendra une demi-heure pour discuter entre nous, parce que je vous ai vu réagir sur le kitsch.
Non, mais bon.
Non, je suis un peu taquin.
Non, mais bon, il faut un peu effectivement problématiser les choses. Donc, en gros, moi, je consonne tout à fait avec votre analyse qu'il faut réinvestir la culture d'aujourd'hui. Je sais qu'on a eu un grand théologien de la culture, mais il y en a un peu qu'un seul, c'est Paul Tillich, hein, qui était donc un théologien germano-américain, qui est luthérien d'origine, qui a immigré aux États-Unis, évidemment, parce qu'il était un des professeurs d'université qui a refusé le serment de fidélité à Hitler, donc il est parti aux États-Unis, à temps. Et là-dessus, il a eu une deuxième vie, et donc il était professeur à la fois de philosophie et de théologie à Boston. C'est d'ailleurs lui a succédé Paul Ricoeur, donc un grand passeur de culture, qui est très en vogue. Mais je suis un peu inquiet parce qu'on le cite tout le temps, il est plus si contemporain que ça, Tillich. Donc je vois des étudiants, dès qu'ils travaillent sur théologie culture, c'est Paul Tillich, et moi je dis, mais attendez, c'est la culture d'il y a un siècle. Mais il a été quand même pionnier, c'est-à-dire qu'à l'époque, d'abord, comme théologien protestant s'intéressait aux arts visuels, c'était déjà très atypique. Et puis deuxièmement, pour lui, sa culture, disons, l'art de son époque, c'était l'expressionnisme allemand. Donc il a beaucoup, il a théologisé sur l'expressionnisme allemand, qui était un art d'avant-garde. Hein. Aujourd'hui, c'est très classique, mais à l'époque, c'était quand même. Donc il était vraiment un homme de la modernité, et il avait vraiment perçu qu'il y avait une spiritualité. Il a un peu figé ça, d'ailleurs, parce que pour lui, le seul art spirituel, c'est l'art expressionniste. Bon, maintenant, depuis, il y a eu des tas d'autres. Non, mais je me dis, pourquoi il n'y a pas d'autres Paul Tillich aujourd'hui? Qui sont nos... Et quand j'ai des étudiants qui veulent travailler sur ce thème, ils me disent, donnez-nous... enfin, on a besoin d'avoir des têtes de file, etc. Et on n'a pas grand-chose en théologie. Je suis un peu inquiet, quand même. Voilà, alors je leur dis, allez voir... on a les philosophes, etc. Mais la théologie, elle n'a pas de pertinence. Ça, oui, c'est un problème. Donc là, je suis vraiment d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous aussi que l'art, notre tradition de l'art, l'art chrétien, a toujours été un lieu d'inculturation. C'est-à-dire que, bon, on a tous en esprit le fait que on représentait au Moyen-Âge, dans des retables, les scènes de Jésus, dans la Palestine de l'époque. On ne faisait pas de l'historicisation, ce qu'a malheureusement fait le 19e siècle, mais on le situait dans les paysages, par exemple, donc il y a beaucoup travaillé sur les primitifs allemands. Et bien, on voyait Jésus dans les scènes de Franconie, par exemple Dürer, hein, Albrecht Dürer, il resituait même dans son Apocalypse, on voyait des paysages de la Franconie, Nuremberg, etc. C'était les paysages que tout le monde connaissait. C'est vrai que le premier qui a sauté le pas, c'est Konrad Witz, dans un tableau qui se trouve au Musée d'Art et d'Histoire de Genève, où il a situé donc la pêche miraculeuse où Jésus avec ses disciples sur le lac Léman, où on voit derrière, on reconnaît tous les sommets, le Salève, etc., le Mont Blanc d'ailleurs. Et donc la Genève de l'époque, c'est-à-dire que les gens tout de suite disaient, en voyant le tableau, évidemment, on percevait quelque chose de la pertinence, que ces écrits bibliques, on les lit pas dans une perspective d'histoire pour faire d'histoire, mais c'est parce qu'il nous parle immédiatement. Et ça, donc, l'artiste fait ce que nous, on essaye difficilement de reconstruire dans le cadre d'une étude biblique, d'une prédication, etc. Dire, bon, à un moment, on pose la question, mais pour nous, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, etc., après avoir fait les tours. Hein. Donc là-dessus, moi, je consomme tout à fait. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs une des choses qui m'a motivé à investir la culture contemporaine, c'est-à-dire, c'est bien les vitraux de Chartres, etc., mais c'est quand même, c'est une très belle esthétique, mais c'est plus celle de notre époque. Et on fait aussi passer le message que le christianisme c'est quelque chose du passé, c'était très bien le passé, mais aujourd'hui, et aujourd'hui la culture, c'est même ce que vous avez cité, Rothko, Barnett, Newman, c'est déjà, on est déjà dans une autre époque. Hein. Donc là, vous avez cité la question construction, déconstruction, et ça c'est un élément assez nouveau dans l'art, c'est le retour de la figuration. Ça, c'est assez évident qu'on a comme une époque, vous avez parlé un peu des dogmatismes, des rigidités, etc. Et c'est effectivement dans les années 60, 70, 80, jusqu'à 90, il y avait une espèce de, presque un diktat de l'art devait être non figuratif. Alors, bon, la non-figuration, ça me va très bien, puisque je suis issu d'une tradition aniconique. Donc, je me sens très à l'aise. Là-dedans, mais en même temps, je veux dire, on est un corps, hein. Le retour du corps dans l'art est quelque chose d'assez assez évident, marque un de ses tournants et dont il faut prendre acte. Donc voilà. Alors, l'art comme, alors, je vais un petit peu, on va un petit peu pas polémiquer, mais discuter le côté transgressif. Alors le marché de l'art, bon, évidemment. Il y a quelque chose d'assez choquant, par exemple, une œuvre que j'aime beaucoup, je ne vais pas montrer, de toute façon, on ne peut pas vous parler de tout, c'est Sudop Gupta, qui est un artiste indien, alors pour le coup, qui avait exposé à Saint-Bernard-de-la-Chapelle, donc à Paris, dans le cadre des Nuits Blanches de Paris, une œuvre magnifique, qui s'appelle Very, Very Hungry God. C'est une immense tête de mort constituée d'ustensiles de batterie de cuisine indienne qui n'ont jamais servi, le dieu qui a très très faim. Et donc il avait constitué dans l'église, voilà, une œuvre là où qui posait la question de la faim dans le monde, etc., ces ustensiles de cuisine qui n'avaient jamais servi, qui formaient l'idée d'une immense tête de mort à laquelle il a donné le nom de dieu. Et dans le cadre de cette œuvre, qui était aussi liée à tout un parcours presque initiatique, on pourrait presque dire liturgique, puisque c'était comme dans le cadre d'église, on tournait autour, etc. Et puis après, on sortait, on devait sortir, rentrer par une porte, on sortait par une autre porte. Et à la sortie, vous aviez des gens qui vous servaient une assiette de soupe végétarienne. C'était fantastique. alors là, on était impressionnés parce que vous pouvez prendre la photo, mais c'est l'ensemble qu'il fallait vivre. Et bien, cette sculpture a été effectivement achetée par François Pinault pour 5 millions d'euros. Et elle est effectivement maintenant à Venise. Bon, ça perd complètement son sens. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Il a été victime de son succès, comme Pignon-Arnès qui a refusé d'aller dans une exposition au lieu d'art, et bien qui maintenant est dans toutes les galeries. Donc ça, c'est inévitable en quelque sorte. Le côté transgressif, je me démarquerai un peu, assez de vous. Bon, d'abord, c'est souvent... je trouve que c'est un peu facile de dire l'artiste qui veut créer un scandale, etc., puis le scandale est... c'est pas si évident que ça. D'abord, souvent, c'est pas l'artiste qui crée le scandale, c'est des milieux qui n'ont rien compris, etc. Qui le montre, enfin bon, on pourrait parler du Peace Prize, hein, de Serrano, que j'ai volontairement, je l'ai pas montré parce que, mais c'est un travail que j'ai très étudié profondément, je suis même rentré en contact avec l'auteur, hein, Serrano, ou d'abord son représentant à New York, etc., c'est un homme profondément religieux. Il a transformé son appartement à New York en espèce de musée d'art chrétien avec des œuvres. Il achète tout ce qu'il peut comme religieux, parce que ça lui parle. Alors après, qu'il ait travaillé sur des liquides, humains, considérés comme pas nobles.
De l'urine.
Oui, mais, alors, ça me fait préciser deux choses. Un, on ne sait pas que tous les grands maîtres de la Renaissance mélangeaient leur peinture avec de l'urine. Michel-Ange, etc., parce que c'est un liquide qui est très précieux, hein, pour aussi qui a des vertus thérapeutiques. Donc, je veux dire, l'urine, c'est un corps humain. Donc, il n'y a aucune honte. Deuxièmement, son œuvre, et ça, c'est on est victime vraiment de campagnes médiatiques. Alors, les relations entre le rôle des médias et de l'art, et la médiatisation de l'art, ça c'est aussi quelque chose qu'il faudrait théoriser, hein. Mais on dit il a trempé un crucifix dans l'urine, c'est pas vrai, c'est totalement faux. L'œuvre d'art, c'est une photographie, c'est pas une installation dans laquelle vous avez un crucifix qui est trempé dans un... c'est pas ça, l'œuvre d'art elle est une photographie, et s'il n'y avait pas le titre, ce serait impossible de savoir que c'est de l'urine. Donc là il y a aussi des campagnes de désinformation, je sais, parce qu'à chaque fois qu'il y a un genre scandale comme ça, on vient me chercher pour me dire... alors, d'autant plus quand c'est l'Église catholique qui réagit, maintenant elle est un peu plus prudente, mais voilà ce que pensent les catholiques, sans dire que c'est certains catholiques, et puis que pensent les protestants. Alors moi je dis que je suis pas habilité à parler au nom des protestants, mais bon, je peux vous donner mon avis. Donc, et maintenant je réponds quasiment plus à ces questions, parce que on est prisonnier des espèces de sphères d'influence, mais finalement, qui est allé voir l'œuvre dans, voilà, c'est mon message, c'est ça, c'est aller voir l'œuvre dans sa vérité, dans sa réalité, dans sa plasticité. Même une photographie de l'œuvre n'est pas l'œuvre. Elle en est, hein, qu'une représentation la plus fidèle possible. C'est pour ça que moi j'essaye de multiplier aussi les clichés, etc. Mais il manque le côté, déjà la dimension, le côté physique, voire le toucher quand on peut le faire, etc., etc. Donc tous ces éléments-là, ils sont à prendre en compte et ils sont extrêmement importants. Voilà. En tout cas, sur le et puis on pourrait, je pourrais multiplier les exemples sur les scandales où l'Église s'est trompée. Ça, je crois qu'il faut quand même reconnaître. Et vous avez parlé à la fin du rôle de l'Église, mais on traîne des casseroles derrière nous, hein. C'est-à-dire que on pourrait écrire une histoire de l'art des loupés du christianisme par rapport à des œuvres qu'elle a rejetées, qu'elle a pas faussement interprétées, etc. Le père Couturier, c'était un combat aussi, il était tout seul quand même pour défendre une position qui maintenant est acceptée, de dire que pour une église, il va pas faire appel à des artistes chrétiens. D'ailleurs, le nom artiste chrétien est problématique, hein, mais au plus grand artiste de son époque, hein, c'est d'abord le critère artistique qui doit l'emporter sur sur le fait qu'il ait une confession ou pas. Et bon, aujourd'hui, c'est admis, mais c'était un combat qui n'était pas perdu d'avance. Et alors, je pourrais citer des exemples. Alors, en Allemagne, sous le nazisme, c'était une catastrophe. Donc, les exemples sont tellement nombreux que je crois qu'il faut commencer par déjà regarder devant notre porte, savoir avoir un peu d'humilité.
Non, mais je suis évidemment d'accord. Mais ce que je voulais dire par rapport à cette notion de provocation, c'est que ben, vous évoquez Serrano. Moi, j'aime beaucoup cette œuvre. J'aime beaucoup cette œuvre et je pense qu'elle ne me choque en aucune façon. Mais c'est quand même lui qui a décidé de l'appeler Peace Christ. Si c'est une église, si c'est son galeriste, je ne sais pas. En tout cas, l'œuvre s'appelle comme ça. Donc, il y a véritablement choquer le bourgeois, en fait, fait partie de la logique commerciale aujourd'hui, de la logique publicitaire de la société dans laquelle on est. Donc, je pense qu'on peut avoir une distance prendre un peu de distance par rapport à ça. Donc, évidemment, je me sens pas déstabilisé par cette œuvre. Au contraire, c'est une œuvre que je trouve absolument magnifique. Mais on peut prendre juste le petit bout de distance par rapport à ce qui est quand même du ressort de la société publicitaire. Et bon, voilà, et souvent c'est dans le titre des œuvres, en fait. L'essentiel, souvent les œuvres sont plus intéressantes que le titre, qui est un vecteur de scandale pour amener à amplifier le phénomène et faire monter la cote. C'est juste ça que je veux dire, mais autrement, je suis tout à fait d'accord.
Je pense qu'on pourrait continuer ce débat. Vous avez sûrement quelque chose à répondre, mais c'est important quand même que vous puissiez poser quelques questions, j'imagine, qui vous sont venues ce matin. Tu veux faire ça? Voilà. Donc, je vois une question plutôt à gauche. Colette, je la vois, une question. Elle va courir, mais elle a des grandes jambes, c'est bien. Ouais. Alors, donc la dame qui est là-haut, je vois pas bien.
Bonjour. Écoutez, je suis très intéressée par tout ce que vous dites, mais je suis aussi très bousculée. Alors, je suis bousculée parce que, pardon pour moi, j'ai entendu que les gènes, j'aime pas. Ça va pas dans le sens d'une rencontre avec un artiste ou n'importe qui. Et que de ce point de vue-là, pour moi, l'art est une occasion d'être dans la rencontre de quelqu'un de différent. Et c'est bien notre problème aussi, tous les jours, ça, d'accepter, d'entendre, de regarder un visage, de regarder une situation qui nous soit un peu différente de ce que la pensée unique a très bien su nous faire intégrer. Donc, je n'aime pas. Mais par contre, tout ce qui m'aide à accueillir la différence, oui, ça m'intéresse. Et justement, il me semble que si des artistes commencent à s'intéresser à l'au-delà, à l'invisible, enfin on est un peu dans la différence parce qu'on n'est plus dans le concret matériel visible, audible.
Voilà. Très bien. Merci pour cette remarque. On va prendre plusieurs points de vue, points et questions. Donc, quelqu'un là, après on va descendre ici et là-bas. Alors, à ta gauche, je suis un peu arbitraire, mais je voilà. Et puis il y a aussi de l'autre côté, après, il y a quelqu'un qui lève la main depuis un moment.
Bonjour, merci pour ce que vous nous avez dit. Ma question, c'est quelle est la valeur de l'art ? Vous nous avez dit qu'une œuvre avait valu 5 millions. Donc, c'est magnifique si ces 5 millions sont la valeur de l'aide aux personnes mourant de faim. Mais si c'est pour remplir les poches de l'artiste, je me pose vraiment des questions.
Bien. Donc là, comme on va prendre plusieurs questions, peut-être, Marie, il y a un monsieur qui avait une question, je vois pas bien les visages d'ici, mais voilà.
Bonjour, ma question rejoint ce qui a été dit là, c'est quel est, à votre avis, le rôle de l'argent dans l'art. Par exemple, il fallait être très, très réactif et toujours faire quelque chose d'autre. Est-ce que c'était pour faire monter la cote? Autrement dit, est-ce qu'on peut essayer de trouver quel est le rôle de la financiarisation dans l'art?
Alors ça c'est une grande question. On va prendre la question du monsieur, répondre, et puis après on en fera une série, je vous ai repéré. Donc monsieur.
Oui, la première intervenante de l'université nous avait dit que l'art c'est d'abord l'émotion, le mouvement qui nous fait aller au-delà. Et là, dans l'art contemporain, pour moi il y a une difficulté, c'est le décodage. On a très bien vu pour Reiner là, c'est ambivalent, c'est ambigu. Et si on ne resitue pas ça dans l'histoire, si on ne connaît pas l'histoire, la vie de la personne, ou bien ce qu'elle a voulu dire, eh bien, on ne sait pas où on est exactement. Le barbouillage sur le Christ peut être une insulte, quelqu'un qui renie la religion, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est en révolte contre des gens qui ont massacré le christianisme par le nazisme, par exemple. Alors là, c'est une difficulté le décodage difficile.
Juste pour que chacun ait l'impression qu'on ait bien répondu à sa question, j'aime pas accueillir différence, aucun problème, tout à fait d'accord. Je vous livre juste cette citation qui, moi, m'est très utile d'Adorno, donc grand philosophe de l'école de Francfort qui a beaucoup réfléchi à la question esthétique. Hein. L'art, le but de l'art est d'introduire du chaos dans l'ordre. Pas mal ça, d'introduire du chaos dans l'ordre. On est très formaté, notre société, consommation, etc. Et voilà, l'artiste dérange, il permet de voir autrement, etc. Bon. Alors sur le rôle de l'argent, là je vous avoue mon incompétence. Il faudrait faire venir un galeriste, un vendeur de hard-art, j'en ai jamais ni vendu ni acheté. Ce que je veux dire, c'est que il y a quelques œuvres effectivement qui sont victimes de leur succès artistes, il y a aussi des quantités invraisemblables d'artistes qui vivent dans le dénuement et qui c'est impressionnant. Hein. Moi je travaille avec des futurs artistes de l'école de. Enfin, la faculté des arts, à Strasbourg, pas l'universitaire, vous avez au rez-de-chaussée la théologie, au sous-sol les arts plastiques. Voilà, j'étais le premier à avoir une idée de dire, mais on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Mais ils sont 600, hein, à l'école de 600 jeunes qui travaillent. Je suis admiratif de voir ces jeunes et qui après vont se lancer dans des situations. Enfin, ils acceptent complètement la précarité, hein. Et pour eux, le plus important, c'est ils sont dans la vérité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils. Ils acceptent quand même une précarité que peu de gens sont prêts à accepter. Hein, pour tout ça parce qu'ils veulent créer. Donc moi, il y a des exemples de circuits financiers, mais il y a tous ceux qui travaillent comme ça et qui acceptent vraiment une précarité assumée. Mais ça, c'est depuis le 19e siècle. D'ailleurs, c'est depuis historiquement. À la fin du XIXe siècle, où les artistes n'ont plus au début du XXe siècle, ne plus avoir ni de mécènes, ni dans la bourgeoisie, ni dans l'Église, qu'ils ont réinvesti la figure du Christ. Ça, c'est très intéressant. Il y a une thèse qui a été faite comme ça, il y a des artistes, j'ai beaucoup travaillé ce sujet, qui ont commencé à s'auto-portraitiser en Christ. Le premier, c'était Gauguin. Et pourquoi? C'est parce qu'il revivait, c'était l'époque où ça correspondait, c'est une très, très, très grande fragilité matérielle, et il revivait, au fond, il y en avait quand même un qui avait accepté cette condition, c'était le Christ. Hein. C'est vrai qu'il y a la fameuse phrase de Van Gogh, le Christ est le plus grand des artistes parmi les artistes, hein. C'est le premier qui a vu dans le Christ, il était artiste, il envoyait des choses, voilà. Sinon, si vous voulez dire quelque chose sur les lieux. Et dernière chose sur le décodage, alors là, effectivement, il y a quand même quelques clés à connaître. Mais il faut le savoir. C'est pour la littérature, c'est pareil. Pour la Bible, hein, si vous voulez bien profiter des récits bibliques, il faut avoir quand même quelques notions historiques, exégétiques, etc. Sinon, vous avez une lecture fondamentaliste qui peut être l'inverse de ce qui est le vrai message, etc. Donc, il ne faut pas effectivement tomber dans le piège de l'intellectualisme parce qu'une œuvre d'art, elle doit d'abord vous parler.
nous parler dans l'immédiateté de l'émotion. S'il faut commencer par lire trois livres de ses vies contemporaines, c'est raté. D'ailleurs, les artistes qui écrivent trop pour expliquer le sens de leur œuvre, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et d'ailleurs, souvent des artistes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont besoin d'interprètes, d'historiens d'art, etc., ils disent, mais moi, j'ai rien à dire. D'autres vont dire, mais moi, ce que j'ai dit, je l'ai dit, mais je ne peux pas avoir un discours sur ce que je fais. Donc, il faut qu'il y ait des philosophes, des interprètes, etc. Voilà, donc, sur le mais n'empêche que quand même, à un certain moment, quand vous voulez dépasser la phase de l'émotion, l'émotion en négatif ou en positif d'ailleurs, à un moment il faut quand même passer par une certaine distanciation et on fait une exégèse. Moi je suis passé de l'exégèse biblique à l'exégèse d'œuvres d'art, hein, avec un certain nombre d'outils conceptuels qui sont reconnus par tous. Voilà, je vous laisse la parole pour.
Non, c'est pas grand chose à ajouter, non, mais vous avez compris que si je dénonçais l'importance du marché, c'est parce que je suis jaloux, en fait. Parce qu'un un livre de poésie, c'est rare que ce soit récupéré par le marché international. Non, mais sérieusement, justement, moi, voudrais qu'on essaye de me situer un peu en équilibre ou en distance par rapport à disons, ne pas être dupe du fait que la hiérarchie artistique établie par la spéculation ou l'investissement avec des très gros investisseurs, Saatchi par exemple, qui est un publicitaire à l'origine et qui est un des gros acteurs sur le marché de l'art britannique. Donc ne pas être dupe de cette hiérarchie qui est imposé, pouvoir récupérer un peu de liberté critique pour pouvoir dire ben, vous voulez nous dire que ça c'est quelque chose de transgressif, d'excitant, de nouveau, vous voulez définir l'art comme étant purement transgressif, on peut avoir une autre approche de l'art que uniquement par le critère de transgression, encore une fois surtout quand tout a été transgressé, donc on peut revenir à l'émotion par exemple, c'est une catégorie plus intéressante que la transgression, je trouve. On peut revenir à l'interprétation, et vous avez évoqué, il me semble que c'est aussi une catégorie plus intéressante. Le christianisme, c'est d'abord un art de l'interprétation, la Bible, c'est un art de l'interprétation de la Bible. L'art l'histoire de l'art est un cycle permanent d'interprétation. On ne parle pas pour rien de renaissance, ça veut dire qu'on est revenu à quelque chose qu'on avait perdu, et c'est un processus non pas de réaction, mais c'est un processus de création. Donc c'est retrouver ça. Moi, je voulais juste dire par rapport à cette importance du marché, retrouvons-nous cette liberté, justement, de ne pas se laisser impressionner, en fait, par cette mécanique-là, et en même temps à distance aussi, parce que je perçois peut-être à tort dans ce que vous dites que peut-être que l'art, c'est beaucoup d'argent qui est dépensé pour rien, qui pourrait être mieux utilisé autrement, ce qui se conçoit. Mais c'est un débat qui est très ancien, puisque au fond, quand on a construit les cathédrales au Moyen-Âge, on était dans une société qui était beaucoup plus pauvre que la nôtre. On se rassure en disant, oui, mais en fait, l'art, à l'époque, était une catéchèse. Moi, c'est une théorie avec laquelle vis-à-vis de laquelle j'ai de gros doutes. Quand vous rentrez d'ailleurs, d'abord parce que cet art était essentiellement invisible, il était inaccessible. Récemment, j'ai eu l'occasion revisiter la cathédrale de Séville. Si vous connaissez la cathédrale de Séville, qui est un monument d'affirmation du catholicisme qui occupe le terrain et qui veut montrer sa puissance. En même temps, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a donc un magnifique retable qui est tout à fait doré, qui est absolument immense. Et on dit, ben voilà, une démonstration de la puissance du christianisme. En fait, quand on se replace deux secondes dans les techniques et les moyens de l'époque, on voit que ce retable était totalement fait, bien qu'il soit extrêmement invisible, tout simplement parce que pour voir ce qu'il y a, il faut pouvoir franchir une grille qui est que le peuple ne franchissait pas, donc était invisible, et d'autre part, il n'y avait pas de lumière électrique, donc en fait, la plupart des œuvres qui sont dans les églises étaient des œuvres invisibles. Quand vous allez à Saint-Louis des Français, à Rome, et que vous voulez voir les trois tableaux du Caravage qui sont dans une petite chapelle et qui sont ces tableaux qui sont absolument extraordinaires, qui sont des parmi les plus belles œuvres du Caravage, en fait, si vous ne mettez pas une pièce dans la machine électrique, vous ne verrez pas ces tableaux. Et donc ça veut dire qu'à l'époque du Caravage, on ne les voyait pas. Quoi qu'on puisse dire, en fait, on les devinait dans une espèce de pénombre. Donc à toute époque, on a investi dans l'art autre chose que de... on a investi dans la gratuité, en fait. Voilà. C'est ça qui, moi, me paraît justement merveilleux. C'est-à-dire que l'esprit humain est capable de construire des cathédrales, de sculpter sur des chapiteaux qu'on ne verra pas en haut des colonnes des cathédrales, des œuvres qui ne servent à rien. Voilà. Et c'est ça qui est magnifique aussi, c'est cette gratuité de la création artistique qui peut aussi nous toucher. Alors, bien sûr, l'argent aurait pu être utilisé à autre chose, mais quelque part, ce geste-là nous ouvre aussi à quelque chose d'essentiel sur l'invisible.
Je peux juste rajouter quelque chose sur ce thème-là, parce que effectivement la tradition protestante elle a beaucoup, dès le départ, hein, dès Luther et dès Calvin, rejeté l'art pour cet argument-là. Hein, on a des citations de Luther, plutôt donner l'argent aux pauvres que de construire des etc. Mais finalement on est arrivé à du moralisme. Hein, ça part d'une bonne intention, mais effectivement après, on fait de l'art de la religion de morale, ce qui n'est pas le cas.
Donc, il y a une question là, et puis madame là, qui lève la main depuis un moment. Allons-y.
Oui, alors moi, ma question, j'aimerais arriver à articuler, à mettre en lien notre culture de laïcité, séparation des églises et de l'État, avec notre lecture de l'art et ces notions de déconstruction, parce que moi je sens, et autour de moi j'ai senti souvent dans ma vie des moments comme de blocage, ou dans des milieux non chrétiens, dans mon travail, j'étais dans la fonction publique, il arrive un moment où on ne peut pas aller plus loin, parce que là ça devient religieux. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une culture tout à fait de l'Est et protestante, et je me sens assez loin de ça, de ce que j'ai vécu à Paris, dans le sud de la France. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est, voilà, comment vous voyez l'évolution de ça?
Merci. Donc, il y a une question ici, madame. Non, ici, parce que c'est un moment là, Colette. C'est moi qui décide.
Je rigole. Elisabeth Bruven, merci infiniment, monsieur le pasteur, de nous avoir fait partager vos découvertes un peu fulgurantes et d'avoir rappelé le souvenir du père Couturier, grâce auquel l'art sacré est né dans les années 50 en Franche-Comté. Et comment ne pas évoquer Fernand Léger, Audincourt, Le Corbusier, la chapelle de Ronchamp, Manessier, Matisse, Soulages. Et une chose est frappante, c'est que dans le cas de ces cinq artistes, et sûrement dans bien d'autres cas, ces artistes n'avaient pas la foi. Ils ont d'abord décliné, et le clergé a insisté, et finalement, leur production s'est avérée mystique. Et donc, je ne suis pas la seule à penser que cela tendrait à prouver que l'inspiration vient de l'au-delà.
Question. Très bien. Alors, une dernière question là-haut, puis après on va répondre à ces questions-là, puis on s'arrêtera là.
Désolée. Alors, moi, je voulais poser la question parce que je suis toujours interrogée par le fait qu'on est chacun un artiste qui s'ignore et que c'est vraiment essentiel pour chacun de chercher le talent que l'on porte. Ça va être important pour développer son intériorité, pour créer du lien avec soi, avec les autres, Et je trouve que dans ce domaine, il y aurait beaucoup à faire, et dans la famille, et dans l'école. Qu'en pensez-vous?
Alors, pour, comme je, voilà, vous avez le micro, je vous laisse poser votre question. Si on...
Une question par rapport à une culture du futur. Existe-t-il un art du numérique ou un art numérique?
Grande question. Donc, on va répondre à ces questions. On s'arrête là parce qu'on n'y arrivera pas sinon.
Alors, je vais essayer de répondre à chacune des questions de manière la plus complète, la plus précise et la plus courte. Sur les blocages par rapport à la laïcité, j'en suis bien conscient. J'ai fait allusion au fait que, effectivement, il y a des choix qui sont faits en amont en France. On le sait pas. Et qui vont dans le sens-là, du religieux, c'est pas pour nous. Hein. Il y a eu une grande exposition au musée d'Orsay au début des années 2000 sur l'abstraction, aux origines de l'abstraction. Je suis allé voir l'exposition, j'étais étonné parce que l'origine de l'abstraction, je sais que les deux pères de l'abstraction, qu'elles soient géométriques ou lyriques, Kandinsky ou Mondrian, étaient en plein dans des quêtes spirituelles, c'est évident, hein, ils avaient écrit, et il n'y avait pas un mot là-dessus, c'était que le morphisme, les effets de couleur, etc., etc. J'étais quand même très surpris, et j'ai rencontré une journaliste qui avait travaillé avec le directeur de l'exposition, qui avait dit que ça avait été un choix, parce qu'il y avait une exposition analogue qui était à New York, où c'était « Abstraction et spiritualité ». Et pour la France, on avait décidé que ce serait abstraction et la palette synchronique des couleurs, etc. On a le droit de faire ce choix, mais il faut le dire. Donc là, il y avait un parti pris qui était pris, le spectateur ne va pas intéresser ici, donc ça va être traité ailleurs. Donc c'est deuxième exemple, l'exposition dont je vais parler sur Traces du Sacré, il y avait en fait deux commissaires d'exposition, il y avait Jean Deloisy, qui est en fait aussi qui est un catholique, qui ne s'est pas du tout affiché comme catholique, mais très sensible à cette problématique, mais il y avait une autre commissaire, Angela Lampe, qui n'en avait strictement rien à faire du spirituel. Je sais, parce que je l'ai invitée à Strasbourg, elle m'a répondu que ça n'intéresse pas, que tout ce qui est religieux, elle ne voit pas l'intérêt. C'est-à-dire, je lui dis, mais pourquoi vous êtes commissaire d'exposition? Ça fait Traces du Sacré. C'était de l'opportunisme. Et je l'ai dénoncé d'ailleurs dans mon livre, j'ai dit que ça, c'est pas honnête. Donc, je pourrais vous multiplier des exemples. Le climat, il est ce qu'il est. Et effectivement, c'est plus difficile en France. C'est beaucoup moins décomplexé en Suisse, en Allemagne, en Italie, c'est un autre problème. Mais en même temps, il y a des ouvertures. En même temps, il y a des choses qui sont possibles qui ne l'étaient pas avant. Donc la situation, elle est effectivement, j'ai aussi des artistes qui me disent « je suis chrétien, mais je veux pas que ça se sache ». Parce que dans les milieux, c'est mal vu, etc., etc. En même temps, il y a des artistes qui sont en quête de quelque chose. Donc, je crois qu'il faut assumer cette situation. Voilà, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur les cinq artistes, Soulage, Manessier. Manessier était quand même un grand chrétien. Hein, et il s'est, au moment où il s'est converti, puisqu'il est devenu chrétien subitement un soir d'hiver, mars 1943, quand il écoutait le chœur des moines à la trappe de Soligny, ça a été un tel choc qu'il s'est dit « je peux plus peindre de la même façon qu'avant » et il est passé du figuratif au non-figuratif. C'était le choc de la foi. Donc ça, il a abondamment écrit là-dessus. Donc on a un artiste, même si, comme tous les autres d'ailleurs, il voulait jamais qu'on parle de lui comme un artiste chrétien, il était un chrétien qui faisait de l'art. Différent, hein. De même que Paul Ricoeur n'est pas un philosophe chrétien, c'est un chrétien qui fait de la philosophie. Enfin, vous voyez, il y a un peu la nuance. Le Corbusier était athée, mais tellement imprégné d'une spiritualité calviniste, hein, il vient de la Chaux-de-Fonds, famille de pasteurs depuis X générations, que ça transpirait par tous les ports de sa peau, en quelque sorte. Hein. Donc, vous voyez, à un moment, voilà, notre héritage culturel et spirituel nous rattrape. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'il y avait des artistes, ça c'était l'apport du père Couturier, de faire appel à des artistes indépendamment de leur qui étaient confessionnels. Alors, on est chacun artiste qui s'ignore, d'ailleurs, il y a beaucoup aujourd'hui dans le monde des arts, il y a des autodidactes, hein, des parfaits autodidactes, et je crois que c'est effectivement quelque chose qui est... Moi, j'ai aussi travaillé avec la performativité du langage de l'art par rapport à des récits bibliques dans des zones de banlieue, par exemple des zones très difficiles, où j'avais organisé une exposition sur l'art contemporain et la Bible dans le nord de Paris,
dans les années, dans les années 2000, et j'étais fasciné de voir que des enfants de lieux très défavorisés à Argenteuil ou à Épinay-sur-Seine, etc., avaient un rapport d'immédiateté avec l'art contemporain. Ça leur parlait. Ils savaient pas quoi, mais ça leur parlait. Donc il y a aussi, on n'est pas que dans l'élitisme. Il y a aussi des formes qui nous parlent, qui parlent même à des gens qui n'ont pas de culture beaucoup plus. D'ailleurs, ça m'a posé une question. Pourquoi, quand c'est représenté par un artiste qui est un bleu intense, il appelle ça l'arbre de Jessé, l'enfant reste en admiration devant cette œuvre, alors que j'essaye de lui faire lire un texte de la Bible, ça m'ennuie horriblement. Donc ça me pose des questions, moi qui suis ici d'une tradition de l'écrit. Mais là, il y a quelque chose de qui se... Et puis, l'art du numérique, ça c'est effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font, hein. Ça c'est aussi un domaine que, bon, j'ai pas du tout parlé, mais le croisement des techniques, et donc l'influence de la, si j'en ai évoqué avec l'utilisation, maintenant la photographie devient de la peinture, hein, puisqu'on va bidouiller, transformer, etc. Par exemple, sur la photographie, il y a deux écoles aujourd'hui. Il y a ceux qui sont de l'école de Douaneau, etc. C'est l'instant pris sur le vif, le moment volé, comme ils l'appellent, et ils s'interdisent de retoucher la photographie. C'est-à-dire. Et puis il y a ceux qui, comme le jeune photographe que j'ai montré, bidouille, retransforme, etc., ce qui fait que ça devient de la peinture, pratiquement, hein. On retransforme ça en fonction des techniques qui sont à notre disposition. Et ça change aussi le rapport au médium. Enfin voilà, là, mais c'est aussi un monde qui s'ouvre, hein, le monde du virtuel.
Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Merci beaucoup. Je pense...